Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute!
Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocate, podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter Maxime Tessier, un avocat qui nous a fait confiance dès le début d'Anomia en 2020. Il nous vient de Rennes, est associé depuis quelques années déjà et est un expert dans son domaine, le droit pénal. Il intervient en droit pénal général et en droit pénal des affaires. Et au cours de ce podcast, il va nous parler de son activité, de son développement, de sa vision d'avocat pénaliste, de son développement dans un cabinet rennais, ce qui nous change de nous inviter majoritairement parisiens pour des raisons logistiques et de marché avec 50% des avocats qui sont à Paris. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser, en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tonti-Bernard et Maxime Tessier.
Eh bien écoute, bonjour Maxime Tessier, je suis ravi de te recevoir pour mon podcast de rentrée, puisque à l'heure où on le tourne, on est le lundi 4 septembre, je suis rentré d'un mois de vacances et je suis ravi de voir, non pas n'importe quel ami, un ami rennais présent dans nos bureaux de Paris. Salut Maxime Tessier.
Bonjour Valentin.
Alors, ma première question est toujours la même, Maxime, qui étais-tu avant de devenir avocat ?
Alors, qui j'étais avant de devenir avocat ? J'étais un étudiant qui vient des Sables-d'Olonne, qui a grandi, qui a fait toute sa scolarité au bord de la mer, dans la ville du Vendée Globe, même si moi, je n'ai jamais fait de bateau particulièrement. Et par le fil des rencontres, j'ai fait droit, j'ai rencontré quelqu'un qui a été très important dans mon parcours, qui s'appelle Jean Danet, qui m'a enseigné le droit pénal et qui est quelqu'un que j'ai beaucoup et que j'admire toujours et que j'apprécie. Et de fil en aiguille, des Sables-d'Olonne, je suis resté très Grand Ouest, je suis monté à Nantes pour finir mes études, mon Master 2 de droit pénal et sciences criminelles. J'ai passé l'examen d'entrée à l'école des avocats en fin de M1 et en même temps que mon M2, j'ai commencé l'école. Et par toujours ce hasard des rencontres, et puis toujours grâce à Jean Danet, j'ai rencontré celle qui était ma patronne et qui est devenue mon associée, Catherine Glon, l'une de mes associées, parce que j'ai 6 associés aujourd'hui.
Actuelle bâtonnier au barreau de Rennes, c'est
vrai. Tout à fait, la bâtonnière de Rennes. Et je suis arrivé à Rennes et j'y suis resté. Et ça va faire 9 ans. dans ce cabinet où j'ai été élève avocat, juriste, salarié, collaborateur, et où je me suis associé il y a 3 ans après avoir obtenu mon titre de spécialisation en droit pénal.
Alors, moi, je suis content du coup de t'avoir ici, parce que moi, tu le sais aussi, je suis quelqu'un de la région, alors pas de l'ouest, mais de l'est.
Non, une belle région aussi.
Du côté de Nancy. Un peu moins la mer, mais c'est sympa quand même. Il y a le Gers, il y a la Gers,
tout à fait.
Pas mal aussi pour les pénalistes. Donc, je suis ravi d'avoir quelqu'un qui exerce dans un barreau régional, puisqu'on a majoritairement des gens du barreau de Paris, pour des raisons qui sont exclusivement ou en tout cas essentiellement logistiques. Mmh. Explique-moi ce que c'est d'être associé, ou plutôt non, d'abord, d'être collaborateur au sein d'un cabinet d'avocats présent à Rennes. Enfin, en tout cas, explique-moi ce que toi tu as vécu. Mmh. Je ne vais pas te demander de comparaison par rapport à Paris, mais les Parisiens pourront le faire. Comment on commence sa collaboration dans un cabinet à Rennes ?
J'en ai un souvenir intense, sur tous les plans. Sur le plan de ce que j'y ai appris, de ce qu'on m'a fait faire immédiatement, de ce que ça a imposé comme énergie, comme implication de soi, mais intense aussi dans ce que, dans ce que j'ai vécu et dans ce qu'on m'a permis de faire, d'apprendre et de faire tout seul pour, vraiment une phrase de mon associé que j'aime beaucoup, vraiment modestement, j'insiste, hein, modestement, mais ça nous a permis dans ce métier de, comment dire, il n'y a rien de plus beau, je trouve, que de pouvoir changer la vie des gens. Pas toujours beaucoup, pas toujours du tout, on ne réussit pas toujours tout ce qui est entrepris, mais vraiment d'avoir cette exigence-là chevillée au corps. Donc à Rennes, à l'époque, le cabinet n'avait pas grand-chose à voir. Il a un petit peu changé. Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans une structure qui existait depuis près de 40 ans, qui a été créée par un homme qui s'appelait Jean Brouillet et qui faisait du droit rural et du droit commercial, qui s'était associé avec Marie-Armelle Pajot-Marivin, qui faisait du droit de la famille. Et ils avaient pris comme élève avocate Catherine Glon, qui allait devenir... la femme qu'elle est aujourd'hui, l'avocate qu'elle est aujourd'hui. Donc, le premier jour, je pense que plutôt que de faire une grande analyse, je peux dire ce que c'était. J'arrive, bonjour, ah, tu veux faire du pénal, très bien. Oui, c'est vrai. je me souviens de ça, ça m'amuse. Bon, voilà, on a telle entreprise qui s'est fait saisir 1 million d'euros, il faut que tu nous trouves la solution pour récupérer tout ça. Je m'en vais, à tout à l'heure. Voilà. Donc là, il y en a beaucoup qui doivent se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces avocats complètement fous ? Comment faire pour dégoûter les gens ?» Et en fait, pas du tout. Parce que la chance que j'ai eue, c'est que très rapidement, la formation se fasse avec des dossiers sur lesquels l'avocate associée avec laquelle je travaillais était ceux sur lesquels moi je travaillais. Il y avait toujours cette protection-là aussi de cet avocat associé, l'avocat responsable du pôle, qui jamais ne se défaussait sur le collaborateur ou sur l'élève avocat si les choses ne fonctionnaient pas. Tel est en tout cas comme cela que j'ai vécu les choses. C'est aussi ce qui m'a permis, si tu veux, moi je ne suis pas grand-chose, là tu m'obliges à parler de moi, mais mon existence importe peu, mais j'aime profondément ce métier. C'est une passion intense et c'est aussi grâce à ce mode de fonctionnement-là, grâce à mon associé Catherine, qu'à tout juste 23 ans et 3 semaines, je me retrouvais à ses côtés propulsé à la GIRS pour un dossier de proxénétisme très important, très intense aussi, sur lequel nous avons réussi à obtenir un résultat juste pour notre cliente. Et puis au bout de 3 mois, c'était parti pour la cour d'assises. Voilà. Avec 4 fois dans l'année, dont 3 fois tout seul à la fin. Et en cela, je la remercie énormément.
Donc, tu as immédiatement été mis au feu, entre guillemets.
Tout de suite.
Tu n'as pas resté une petite main sur les dossiers. On t'a
voilà,
au
tout de suite, comme quoi c'est possible. Tout de suite, mais jamais totalement sans filet. Moi, j'avais l'impression de sauter sans parachute, d'une certaine manière, alors que le parachute, il était toujours là. En réalité, ça m'a permis d'apprendre beaucoup, très vite. J'en avais envie. J'étais à une période de ma vie où en plus j'étais très jeune, donc je le pouvais. À la fois, tu vois, le fait d'avoir une vie familiale différente aujourd'hui m'amène pas à avoir un autre discours parce que finalement j'arrive tout autant à travailler, voire plus, voire d'une autre manière. Bon, en tout cas, j'avais le luxe de ne pouvoir penser de pouvoir penser beaucoup à cela et à pouvoir m'y investir. Et en face, j'avais quelqu'un qui voulait m'apprendre.
Très clair. Tu développes rapidement ta clientèle perso ?
Oui, parce que dans le pacte de collaboration qui était celui en vigueur dans mon cabinet et puis entre nous, c'était que pour que je sois un vrai avocat, et un vrai avocat collaborateur libéral, il fallait que j'aie une clientèle personnelle. Il n'y a jamais eu de mystère là-dessus. Ça a toujours été un souhait de mon cabinet. Et c'est toujours quelque chose qui existe aujourd'hui. Nos collaborateurs, je parle pour tous ceux du cabinet Avocat Liberté, mais je parle surtout aussi pour ceux avec lesquels j'ai le bonheur de travailler, nos collaborateurs au sein du pôle pénal ont la possibilité de développer une clientèle personnelle, autant que de faire d'autres choses. On en a un qui est élu au jeune barreau, représentant syndical. Chacun utilise le temps comme il le souhaite. Mais je trouve vraiment que d'abord c'est essentiel parce que c'est prévu par les textes, et puis au-delà de ça, c'est l'esprit de la collaboration. C'est le fait de pouvoir continuer à se former comme avocat avec sa clientèle personnelle. Alors moi, des dossiers, on m'en a donné au début, notamment des dossiers au titre de l'aide juridictionnelle que mon cabinet ne pouvait pas prendre. Et puis c'est comme ça que progressivement se sont fait les choses. Rennes est un barreau, c'est pas le barreau actuellement en nombre d'avocats le plus important du Grand Ouest, mais c'est un barreau où il y avait une cour d'appel, et où il y a une cour d'appel, et donc pour un jeune qui commence, avoir toutes ces possibilités de mission de service public qui s'ouvrent, c'est super, parce qu'il n'y a pas que celle du tribunal, il y a celle de la cour, il y a celle dans les établissements pénitentiaires. En tout cas, pour un collaborateur, en tout cas pour un avocat qui s'installe et qui veut faire du pénal à Rennes, il y a du boulot.
C'est quoi le plus dur au départ ?
Le plus dur, je ne parle que pour moi, c'était de me sentir légitime et compétent à ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai tout de suite voulu travailler énormément pour compenser ce qui était, je crois, en partie et de la nécessité d'apprendre et un manque de confiance en soi. Travailler énormément pour que les clients, le moins possible, mais c'est pas du tout, c'était pas prétentieux, c'était vraiment dans l'envie de faire le meilleur travail possible, mais se sentent pas lésés si c'était le collaborateur qui venait et pas la patronne. Et donc, ça pouvait se compenser par peu d'autres solutions que celle de travailler beaucoup. Et donc, je m'y suis employé.
T'évolues comment pendant tes années de collaboration ? Est-ce que tu sens une évolution importante dès le départ ? Est-ce que tu trouves que c'est plutôt linéaire ? Est-ce que tu te rends pas compte de ton évolution et on est obligé de la pointer du doigt, que ce soit par rapport à ta patronne ou par rapport à tes confrères qui avaient le même âge que toi ? Comment ça se passe ? Comment tu sens que t'évolues ?
En réalité, ça se fait quand même assez rapidement. Parce que, comme je te dis, dès le mois de janvier, je prête serment en décembre 2015, je deviens avocat le 4 janvier 2016, et dès le premier mois, j'ai des dossiers personnels. Je dois en avoir deux, mais c'est super. Surtout que ce n'était pas des rémunérations sur lesquelles nécessairement je comptais, tant elles étaient variables. Et donc, d'abord, sur le plan financier, c'était tout sauf négligeable. Et par ailleurs, sur le fait de rencontrer des nouveaux dossiers, de rencontrer des nouveaux clients et de se poser de nouvelles questions, c'est allé assez vite. Ce qui a été un accélérateur aussi, c'est cette confrontation très rapide avec la GIRS et avec la Cour d'assises, et un objectif qui était le mien, que j'avais dit à certains de mon cabinet, mais qui était un objectif que je m'étais fixé, qui était au bout de 4 ans, de voir s'il me serait possible de présenter le certificat de spécialisation en droit pénal. Moi, j'étais passionné de pénal, je savais que je voulais faire absolument que cela. Mon stage m'avait permis, parce que mes associés font d'autres matières, de découvrir autre chose. Et autant, je vois bien sûr tout l'intérêt qu'il y a dans les autres matières, mais je le vois sous l'angle de ce que, sur une question pénale, je peux apporter par exemple à mon associé en commercial, en droit rural, en droit de la famille. C'est comme ça que je voyais les choses là, au début, avant de cibler encore plus aujourd'hui. Mais assez rapidement, et ce qui a bousculé aussi les choses, c'est qu'à un moment de ma collaboration, en troisième année, quatrième année, parce que c'était possible et parce que ça m'intéressait de continuer à développer, tout simplement, c'est pas une idée révolutionnaire, mais j'ai ouvert un site internet et j'ai fait de la publicité personnelle qui a généré un certain nombre de dossiers que j'ai pu apporter aussi au sein de mon cabinet, quand on a décidé de s'associer, pas longtemps après.
Très clair. Pourquoi tu as passé le certificat de spécialisation et qu'est-ce que concrètement ça t'a apporté ? Est-ce que ça t'a apporté une légitimité vis-à-vis de tes confrères ou vis-à-vis de tes clients et ou vis-à-vis de tes clients ?
Alors, le passé, d'abord, c'était, je le souligne, une politique de notre cabinet vers laquelle on souhaitait tendre, on souhaitait que nous puissions envisager tous de passer des certificats de spécialisation. Ce que tous ont fait ou sont en train de faire, ou en tout cas, on réfléchit à faire.
Bonne chance à eux.
Oui, et j'ai la chance. Vraiment, moi, j'ai une admiration, un respect pour mes associés. Après, les choses viennent en leur temps. On a différents projets, différents clients. Chacun le fait lorsqu'il estime devoir le faire. Bref, je ne suis pas là pour dire à leur place. En tout cas, j'avais ce souhait-là. Et qu'est-ce que ça m'a apporté ? Je pense que pour le jeune que j'étais, d'abord, je me rappelle ce que j'ai dit au jury de spécialisation. C'est pas parce que je passe le certificat de spécialisation en droit pénal que je deviens Franck Berton du jour au lendemain. Voilà, pour parler de gens qui sont un peu iconiques et puis que j'admire d'ailleurs dans leur travail. Et pardon pour les autres, parce qu'il y en a des tas d'autres qui sont admirables à mes yeux, et je ne souhaite pas blesser personne. En tout cas, c'est revendiquer pour moi, passer le message clair à l'égard de la clientèle, à l'égard de mes confrères et au sein de mon cabinet, que je faisais du droit pénal, notamment en deux domaines, en matière criminelle et en pénal des affaires. Et je trouvais que le fait de pouvoir écrire tout simplement « avocat spécialiste en droit pénal », c'était plutôt pratique, franc, honnête par rapport à tout cela. Ça n'enlevait rien à l'exigence qui s'imposait à moi de continuer à travailler, de rester compétent, parce que si tu t'affiches avocat spécialiste, tu fais une promesse, comme ceux aussi qui présentent activité dominante, chacun exerce comme il veut, mais tu fais une promesse à ton client, et j'estimais que c'était ces deux choses-là. Je voulais expliquer que je faisais du pénal, et je voulais continuer à en faire, et m'imposer une exigence de qualité à cet égard. C'est ce que je dois à ce certificat.
Quand tu crées ton site internet en tant que collaborateur libéral, comment tes patrons de l'époque le prennent ? Parce que, pour parler franchement, on a souvent cette question des collaborateurs qui me disent « Mais est-ce que j'ai la possibilité de faire un compte Google My Business ? Est-ce que j'ai la possibilité de créer un site internet ? Si mes associés le voient, comment ceux-ci vont-ils le prendre ? Est-ce que c'est de la concurrence déloyale ? Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Est-ce que ça va être bien vu ? Blablabla. C'était quoi, toi, ton...
Il n'y a eu aucun problème, parce que vraiment, chez Avocat Liberté, il y a une revendication de la liberté totale des collaborateurs dans le développement de leur clientèle. C'est même un souhait que... C'est ce que je dis à nos clients lorsque mes collaborateurs doivent me remplacer. Comme je dis que ce que je pense, je leur dis ça. Moi, mon travail, c'est de faire monter les talents. C'est d'avoir des gens à qui je transmette, aux côtés de Catherine, mon associée, notre passion, ce qu'on sait faire en droit pénal, pour qu'on les accompagne dans le fait de devenir des avocats qui aient confiance en eux, confiance dans leur travail, et qui produisent des choses très importantes pour nos clients, dans des dossiers parfois très compliqués. Notre travail, c'est celui-là, et le fait de pouvoir s'affirmer personnellement avec sa clientèle, d'affirmer son image, sa personnalité, et par exemple à travers un site internet ou un compte Google My Business, je pense que mes associés n'y avaient vu du positif, et d'ailleurs tout cela a accompagné le processus qui était celui de devenir collaborateur à associé, parce que ça m'a permis d'apporter de la clientèle, ça m'a permis aussi de continuer à générer du chiffre d'affaires une fois que je m'étais associé, sans plus percevoir de rétrocession à ce moment-là. Non, en réalité, ça a été un tremplin pour moi, mais aussi pour mon cabinet.
Très clair. Quand tu es devenu associé, ou en tout cas avant de devenir associé, tu générais à peu près combien de chiffres d'affaires par an ?
Alors, comme collaborateur ou à titre personnel ?
À titre personnel.
Hors rétrocession d'honoraires.
Hors rétrocession d'honoraires. Je te parle d'une grande
masse. Je peux te dire que sur la dernière année, je ne suis pas sûr de m'en souvenir. En tout cas, je crois que à la fin, avant de m'associer, je dis peut-être une bêtise, je te dirais 130 000 euros.
Ok. Ce qui est relativement correct, même très honorable en tant que...
C'est avant de m'associer, ça c'est sûr. Je pense que j'en étais là, ce qui était très, voilà, comment dire, quand tu es dans une situation plus de collaboration, il y a aussi un business plan à avoir parce que tu, dans bon nombre de cas, tu ne payes pas de frais comme lorsque tu as le loyer à payer, l'ordinateur à payer ou autre. Donc oui, en effet, ça peut, tout dépend de la formule, ça peut être très intéressant.
Très clair. Ok. Comment tu prétends à l'association? Est-ce qu'on vient te chercher? Est-ce que c'est toi qui la demande? Comment ça se passe? Parce que à 130 000 euros de chiffre d'affaires, bon, les rétrocessions à Rennes, elles ne sont pas aussi importantes qu'à Paris.
Non, mais c'est le barreau de région, l'un des barreaux de région, si ce n'est le barreau de région, qui paye dans les minima hein, prévus par l'ordre, le mieux les collaborateurs. D'ailleurs, les chiffres viennent d'être augmentés parce que les collaborateurs en première année à Rennes sont payés désormais 2700 euros hors taxes et en deuxième année, 2900 euros hors taxes. C'est-à-dire plus que dans d'autres barreaux. Mais c'était quoi ta question? Je t'ai coupé.
La question, c'était de dire, ben, par rapport à ta rétrocession d'honoraires,
oui.
Le chiffre d'affaires personnel que tu engendrais était très important.
Oui, il était plus important.
On peut même dire, sans trop se mouiller, qu'il était trois fois plus important que la rétrocession que tu pouvais toucher.
Entre deux et trois fois.
Ouais. Entre deux et trois fois, pardon. Donc, est-ce que là, il y a eu un blocage à ce niveau-là? Est-ce que tu te dis, en fait, soit je peux devenir associé au sein d'Avocat Liberté, donc mes associés viennent me chercher où je présente mon association, ou malheureusement, je devrais aller m'installer ailleurs, ou est-ce que finalement, tu arrivais encore à tenir les deux?
Mes associés avaient précédé le pas, précédé la chose. En réalité, j'avais eu cette discussion avec eux. J'ai souvenir aussi d'une discussion avec mon associé Guillaume Brouillet, qui est spécialiste en droit commercial et en procédure collective, où il m'avait exprimé le fait qu'il souhaitait qu'on poursuive l'aventure ensemble, ce à quoi j'avais acquiescé. Et donc, cette fin de collaboration, c'est aussi en cela que j'avais lancé toute cette communication. Parce que je parle du site internet, parce que c'est ce qui avait mieux marché avec Going My Business, mais j'avais testé des tas d'autres trucs. C'était une période formidable je peux toujours aujourd'hui, hein, mais où j'avais essayé Facebook, etc. J'étais un peu parti à la pêche, faire des tests, voir ce qui marchait, voir ce qui était utile pour les clients. Bon. Et moi, j'ai vécu ma fin de collaboration vraiment comme un sas vers mon association. Donc aussi, comme j'avais la possibilité d'être associé, de construire des choses avec ce cabinet, ben, j'avais envie de lui apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est dans ces conditions-là que ça s'est joué.
Très clair. Et alors, quand tu deviens associé, qu'est-ce qui se passe? Déjà, est-ce que tu dois payer pour devenir associé? Est-ce qu'on te donne des titres? Est-ce que tu es d'abord associé en industrie, puis tu deviens après associé en capital? Comment ça se passe?
C'est les deux. On a évalué ma clientèle, la valeur de ma clientèle. J'ai acheté des parts en capital, et on m'a accordé tous collectivement des parts en industrie, comme mes associés, pour parvenir à nos objectifs. Et tout cela en se fixant aussi, comme c'est un gâteau, ou alors deux gâteaux, entre part sociale, part en capital, part en industrie, en se disant, bon alors, où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà, c'est assez tout simplement que ça s'est fait. Et puis tout ça d'amitié forte, ça surprendra personne de dire qu'on a bu un coup après, quoi.
Oui, exactement.
Et puis peut-être un peu avant aussi, voilà.
Ça marche. Qu'est-ce qui se passe quand tu passes du statut de collaborateur au statut d'associé? Est-ce qu'il y a un changement qui s'opère au niveau de ta façon d'exercer, au niveau de la confiance que tu as en toi, au niveau de la présentation par rapport au client? Grosso merdo, est-ce qu'il y a quelque chose qui change?
Oui, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Mon souci est de ne pas que tout change non plus totalement ou tout d'un coup, parce que j'étais dans un cabinet où j'ai franchi la porte comme candidat à un stage d'élève avocat et où je me transformais du jour au lendemain à devenir l'employeur de personnes qui aussi m'avaient formé. Et je pense là à mes assistantes et assistants, vraiment sans qui je ne serais pas l'avocat que je suis aujourd'hui. C'est aussi avec eux que j'ai appris mon métier et que je rends des services à des clients et je veux leur rendre hommage. Donc, tu n'arrives pas comme ça en disant « bonjour, c'est moi le roi et le patron ». Et d'abord, je n'ai pas été élevé comme ça. Donc, il y a des choses qui changent, mais je pense, moi, c'est ma conviction personnelle, c'est que les autres ont vu avant moi que le statut avait changé. Et donc, en réalité, c'est à, c'est à, à moi d'être à la hauteur de cela. Donc, vis-à-vis des clients, je crois que ça a été au fond plus simple, mais en fait, vis-à-vis des clients de mon cabinet, ceux que je continuais à accompagner, que j'accompagnais avant comme collaborateur, mais dont je pouvais être perçu par eux véritablement comme le responsable du dossier. Ça a facilité les choses avec cela. Après, avec les nouveaux clients, comme il y a assez peu de récurrence, heureusement, parce que ça finit par s'appeler de la récidive, sinon, dans notre métier, comme il y a assez peu de récurrence, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que on s'attache à être sérieux sans se prendre au sérieux, à apporter un service. Tu es déjà venu à notre cabinet à Rennes.
Bien sûr.
C'est un lieu qui est adapté, qui a été pensé pour recevoir nos clients, pour qu'il y ait un certain nombre de personnes qui travaillent. Aujourd'hui, nous sommes 25.
Quand tu es arrivé, vous étiez 10, c'est ça ?
Oh, on était non, un petit peu plus, je dirais 14. Okay. 14. Il y avait 4 avocats associés, peut-être autant de collaborateurs, plus les assistantes. Donc ouais, une quinzaine. Aujourd'hui, on est 25. Donc non, c'est plus... moi, c'était un nouveau palier, une nouvelle étape à franchir. Et puis, il fallait que ça fonctionne, il fallait que je fasse. Mais mes associés et moi-même, nous sommes donné les moyens d'y parvenir. Donc ce qui a changé, c'est que... très rapidement, j'ai embauché une assistante, puis aujourd'hui c'est un assistant qui travaille avec nous. Et très rapidement, il a fallu pour continuer à travailler et prendre des dossiers qui nous intéressaient et les traiter comme il se doit, qu'on étoffe l'équipe. Donc de 2 à 2,5, si je comptais Catherine Glon, moi-même et l'assistant, parce que mon associée Catherine, elle est aussi spécialiste en droit de la famille, c'est pour ça que je dis 2,5. De 2,5, aujourd'hui, on est passé à 5.
Et alors, du coup, comment tu as pris à bras-le-corps ce nouveau poste d'avocat manager et d'avocat formateur à destination des collaborateurs qui nous rejoignent ?
D'abord, c'était un grand plaisir parce que le premier avocat collaborateur que nous avons recruté, c'est quelqu'un que j'avais rencontré quand j'étais chargé de TD et qu'il était étudiant. C'est une belle histoire, comme avait dit un autre élève avocat qu'on avait recruté l'année dernière. Belle histoire que de se retrouver là, maintenant, à partager le métier. Maintenant, il y avait le souci pour moi de transmettre les connaissances, transmettre le savoir-faire, le savoir-être, tout en moi continuant à apprendre tous les jours, et d'apprendre aussi à déléguer un certain nombre de tâches, et pas d'ailleurs les moins intéressantes nécessairement. Mais de travailler en collectif sur des dossiers, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je pense notamment, pensons à mon collaborateur Quentin qui est arrivé l'année dernière, et je pense à Gauthier aussi avec qui c'est un plaisir de travailler au quotidien. On avait ce dossier de contrefaçon qui était arrivé, sur lequel nous avons travaillé à deux, mais je pense à un autre dossier pour Gauthier, sur lequel nous avons travaillé à deux, et l'écrit, et la stratégie de prise de parole, la gestion de l'audience. C'est pour ça que je n'ai pas envie de travailler tout seul. C'est tellement plus amusant de travailler ensemble, et sur le plan des idées, et sur le plan de ce qu'on vit, et du service qu'on rend aux clients.
Comment tu fais pour que tes collaborateurs ils se sentent bien au quotidien ? On le sait aujourd'hui, le collaborateur, que ce soit au masculin ou au féminin, en tout cas au pluriel, est extrêmement important au sein d'un cabinet d'avocat. On voit qu'il y a énormément de tensions sur le marché des cabinets d'avocats pour faire venir des collaborateurs, que ceux-ci se sentent bien et ne partent pas vers l'entreprise. Comment est-ce que toi, tu fais au quotidien pour que tes collaborateurs aient envie de continuer à travailler avec toi et se sentent bien dans l'exercice de leurs fonctions ?
Bon, j'espère qu'ils ne me jugeront pas trop, trop bisounours ou trop versé d'illusions par rapport à cela, qu'ils ne m'en veuillent pas. Modestement, on essaye de leur apporter un vrai esprit d'équipe, de les faire travailler sur des dossiers qu'on espère intéressants, de leur apporter de l'autonomie sur la gestion des dossiers, mais de l'autonomie jamais sans filet. Vraiment, c'est un peu l'expression qu'on entend des fois chez les médecins. Moi, j'aime bien quand on staffe les dossiers, quand on prend le temps de se voir. D'abord, moi, je suis accessible tout le temps, autant qu'ils sont accessibles à moi en permanence quand on a besoin au bureau. Mais qu'on puisse se mettre autour de la table à 2, à 3, voire à 4 aujourd'hui, avocats sur une même situation, ça c'est ça qui me plaît et je pense qu'on leur apporte, parce qu'on est l'un des seuls cabinets dans le Grand Ouest à avoir alors deux avocats titulaires de la spécialisation en droit pénal. On doit être l'un des seuls et c'est vrai que vis-à-vis d'eux, on, on leur apporte ça, une complémentarité aussi, parce que je ne suis pas Catherine, Catherine n'est pas moi. Et enfin, nécessairement, des moyens pour travailler. C'est-à-dire que l'assistant du pôle, c'est aussi leur assistant pour leur dossier personnel. S'ils en émettent le souhait, c'est tout à fait possible. Mais si tu veux, j'ai l'impression d'annoncer des banalités ou ce qui devrait être des banalités si je leur dis qu'on doit les fournir en moyens.
C'est vraiment un moyen matériel et humain que tu mets à leur disposition pour développer leur clientèle.
Enfin, chez nous, voilà, il est impensable qu'un avocat collaborateur doive s'acheter son ordinateur pour aller travailler. Tout ça, ça existe. Et ça me paraît en fait évident. Autant que le logiciel métier, si l'avocat collaborateur souhaite en avoir un pour sa clientèle personnelle, moi, j'ai toujours connu, et ça existait avant que je sois dans ce cabinet-là, que ce soit mis à disposition des collaborateurs. Nous avons estimé, mais je fais que m'inscrire dans le siège de mes associés ici, que c'était essentiel et que ça doit continuer. En clair, tout ce qu'il faut pour être un avocat qui puisse se consacrer aux clients, qui puisse se consacrer au métier, au développement. En réalité, au métier, je pourrais mettre AUX avec un S, responsable ou directeur de cabinet d'avocat et avocat au service de ses clients.
C'est quoi ton ambition aujourd'hui avec ton département, toujours évidemment modestement ?
Je peux pas m'empêcher de dire modestement, si tu veux, parce que encore une fois, parce que vraiment.
Je sais que les pénalistes, vous avez besoin de dire modestement. Je le
pense. Non, mais parce que si tu veux, les gens ils me connaissent pas, et puis je dis les choses comme je le pense. En fait, je le dis parce que c'est vraiment le travail, le travail, le travail. Je sais pas faire autrement que ça. Je sais pas si je réussis tout, mais c'est seulement en travaillant, en y réfléchissant ensemble. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire maintenant là-dedans ? C'est qu'on continue à travailler nos dossiers pour être ce que j'aimerais, qu'on soit identifié comme parmi des références dans le Grand Ouest, en pénal criminel et en pénal des affaires. Après le pénal criminel, si tu veux, par abus de langage, et les professeurs de droit s'en remettront, j'y inclus aussi les agressions sexuelles qui passent devant le tribunal correctionnel. Ça, c'est des dossiers qui nous intéressent, sur lesquels on travaille beaucoup. C'est aussi pour ça que nous avons ouvert à Paris cette année, pour rendre service à nos clients. Pas pour devenir avocat au barreau de Paris, il y en a suffisamment comme ça, quoique j'en sais rien en fait, il y en a suffisamment. On dit toujours qu'il y a trop d'avocats, moi je trouve qu'il y a besoin de droit, donc s'il y a des avocats, c'est très bien. Mais ça rend service à nos clients, parce que tout breton que nous sommes, je vais aussi vite à mon bureau à Paris ou au tribunal de Paris que je vais dans le Morbihan ou dans le Finistère. Sauf que les activités de nos clients, elles peuvent avoir lieu dans notre cœur de région, si tu veux, en Bretagne, mais partout en France. Et si on peut leur rendre service ici, c'est très bien.
Ça a été une belle ouverture, l'ouverture du bureau parisien. Est-ce que ça a apporté du chiffre ? Est-ce que ça a des clients qui ne vous voyaient, entre guillemets, qu'à Rennes ou que dans le Grand Ouest, vous ont apporté de nouveaux dossiers ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, tu vois, on a ouvert au début de l'année ou en fin d'année dernière. Au début, ça a commencé par rendre service à des clients que nous avions déjà. Rendre service dans le sens où on pouvait programmer des réunions ici. Et puis aujourd'hui, je m'aperçois que des personnes viennent nous voir pour cela aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur vie entre la Bretagne et Paris.
Comme et
voilà, tout simplement. Si tu veux, à 1h30 ou à 1h30 en train, il n'y a pas à discuter.
Il y a Nancy aussi.
Ouais, mais c'est vrai. Voilà, sauf que oui.
Oui, il y a moins de personnes qui ont une maison secondaire.
Rennes-Nancy, 1h30. Rennes-Nancy, 1h30, ce serait formidable.
Ouais, ça serait beau. Ça n'existe pas, malheureusement.
Mais il y a des gens qui sont venus nous voir pour ça. Tu vois, exemple, la semaine dernière, je me trouvais dans les Hauts-de-Seine, en garde à vue criminelle, pour un jeune homme breton, mais qui avait des activités aussi à Paris, et qui, voyant qu'il était convoqué en région parisienne, mais lui ayant toutes ses attaches en Bretagne, s'est dit, tiens, Rennes, ce serait le bon compromis. Avocat liberté pour le droit pénal le fait. On s'est rencontrés. Moi, je suis parti dans les Hauts-de-Seine faire ma garde à vue sur la journée, où d'ailleurs, j'étais content, on rate pas tout, on a obtenu le classement sans suite immédiat de l'affaire. On est retourné en Bretagne, lui et moi. Le travail était fait, et on pouvait le faire. J'aurais dû le recevoir, par ailleurs, de manière confidentielle, de manière efficace, à Paris. eh bien, je lui ouvrais les portes rue de Rennes, oui, parce que pour pas me perdre, non, ça c'est une blague. J'avais dit à mes associés, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on ait des bureaux rue de Rennes. Peut-être que certains m'ont dit, ah, ça va être compliqué, et donc il faut pas me dire ça parce que finalement nous avons réussi à trouver des locaux rue de Rennes. Voilà, au moins c'est la sortie de la gare Montparnasse. Puis nous, dans notre tête, on se sent un petit peu chez nous.
Très clair. Est-ce que tu aurais deux histoires à nous partager que tu as pu vivre en tant qu'avocat pénaliste? D'un côté, une histoire où tu es vraiment fier de ce que tu as pu faire, du travail que tu as accompli, que ce soit par rapport aux résultats, par rapport à la relation que tu as pu avoir avec ton client, à son entreprise ou à sa famille. Donc tu es vraiment fier et vraiment content de cette affaire-là. Et de l'autre côté, son pendant, une affaire qui t'a marqué, mais de façon négative, parce que tu t'es pas trouvé au niveau, parce que tu as trouvé que la sanction était difficile, parce qu'il y a eu des à-côtés ou des sous-jacents qui t'ont vraiment révolté.
Ouais. Ça va t'amuser. Est-ce que je peux m'en permettre une troisième? Parce qu'il y en a une un peu exceptionnelle. Ouais, je vais commencer par celle-là. Celle un peu exceptionnelle, c'est le fait un jour de décembre 2021 de recevoir une convocation devant le juge des libertés de la détention. Et le juge indique... Non, ce n'était pas 2021, c'était 2020. C'est important. C'est vraiment important. Le juge dit la comparution de votre client se fera par visioconférence. Et en application des règles Covid, vous ne pourrez pas refuser. Et ce jour-là, j'ai déposé une question prioritaire de constitutionnalité, estimant que imposer à quelqu'un de comparaître devant son juge qui doit statuer sur sa liberté par visioconférence, c'est porter une atteinte disproportionnée à sa liberté, tant l'atteinte ici est forte au droit d'accès à son juge et donc à la qualité de la décision rendue, en tout cas sur la forme. Et de fil en aiguille, cette petite question posée à l'aube du réveillon m'a conduit devant le Conseil constitutionnel au mois de mai 2021, où j'ai eu l'honneur de solliciter que cette ordonnance soit abrogée, ce qui a été fait. Mon regret, c'est quand même que, comme certaines décisions rendues par le Conseil constitutionnel, extrêmement importantes sur les droits fondamentaux, il y a une petite partie de la décision à la fin, c'est celle qui concerne le sort du demandeur. Et je regrette que, comme d'autres décisions importantes, la décision qui a dit à mon client, bah oui, il était contraire à la Constitution de vous forcer à comparaître la visioconférence, donc cette décision, elle se termine par « mais bon, la décision ne vous est pas applicable ». Je trouve ça quand même très injuste. Pour des raisons d'ordre public, c'est ce qu'indique la décision. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a raison, fait la promotion de la question prioritaire de constitutionnalité comme étant la question citoyenne. Je trouve quand même regrettable qu'elle ne s'applique pas ici aux citoyens qui la posent et qui, fort heureusement, entre-temps, avaient été remis en liberté.
Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre sur ça, parce que quand un avocat va soulever devant n'importe quelle juridiction la nullité des gardes à vue qui ont pu être réalisées ou la nullité de certaines pièces de procédure qui ont eu lieu, on va annuler en cascade ou pas ce qui s'est passé au préalable. Le Conseil constitutionnel lui peut dire « Ok, c'est vrai, l'ordonnance doit être abrogée, par contre, ça ne s'applique pas à l'individu. »
Il a reporté, dans notre cas et dans d'autres, les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Donc oui, en effet, tu as compris. Après, l'autre terrain sur lequel on peut se battre, c'est sur celui de la conventionnalité.
Et Europe. Ouais, la question
européenne. Voilà. Donc, en disant, vous voyez, les principes dont je parle, je les invoque sur le terrain de la Convention européenne des droits de l'homme.
C'est quelque chose que tu as fait ou que tu vas
faire ? Oui, bien sûr. Il se trouve que dans notre situation, la remise en liberté a été entre-temps prononcée et donc que ça n'a pas été nécessaire. Mais sinon, de manière assez peu originale, en effet, c'est quelque chose que j'aurais envisagé. Après, pour répondre à ta question, comment ne pas parler du dossier, je peux citer son nom parce que c'était largement dit dans la presse, le dossier de Vincenzo Vecchi, qui est un homme que nous avons assisté dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, un homme qui avait fait des manifestations en 2002, notamment au G8 à Gênes, et qui s'est fait condamner sur la base d'une loi dont nous avons contesté les fondements parce qu'ils étaient fascistes, et c'est pas un anathème que je lance ici, c'était revendiqué comme tel par ses concepteurs, et il s'est fait condamner à une lourde peine de prison et a été arrêté plusieurs années après dans le Morbihan sur le fondement du mandat d'arrêt européen. Et cette affaire, elle a duré 4 ans, où on est passé à la cour d'appel de Rennes qui l'a remis en liberté après avoir annulé la procédure, Cour de cassation qui a cassé cette décision qui nous a renvoyé à Angers. Angers qui refuse l'application du mandat d'arrêt européen en disant qu'il y avait ce problème sur la loi dont je parlais, un problème de double incrimination. La Cour de cassation qui renvoie cela à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne qui estime que Angers n'a pas correctement interprété les choses. Et là, certains commentateurs de dire que c'en était fini pour notre client. Et on se retrouve devant la Cour d'appel de Lyon, qui est un des rares dossiers que j'ai plaidé encore avec mon associé.
Pourquoi de Lyon ?
Parce que la Cour de la Chambre criminelle a décidé que ce serait à Lyon. Bon.
D'accord.
Alors, je me suis demandé deux choses. C'est est-ce que, raison un peu sérieuse, c'est il fallait sans doute, je ne sais pas, prendre des cours d'appel qui régulièrement pratiquaient le mandat d'arrêt européen. L'autre chose un peu malicieuse, mais j'avoue que c'est vraiment sur le ton de la boutade que je l'énonce, c'est est-ce que le fait de faire Rennes, Angers, puis Lyon, ça ne nous a rapproché pas progressivement de l'Italie pour mon pauvre client ? Bon, toujours est-il que c'est un dossier que nous avons fini par gagner à Lyon. Au mois de février, la Cour d'appel de Lyon a refusé la remise en faisant droit à un de nos moyens qui a été retenu dans d'autres affaires aussi, qui est l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, estimant qu'elle ne pouvait plus revenir sur cette qualification fasciste, estimant que ce n'était pas possible, la Cour de justice de l'Union européenne nous ayant vraiment fermé les portes, ce qui est très inquiétant d'ailleurs. Nous avons dit, mais est-il raisonnable de renvoyer quelqu'un 12 ans de prison chez lui pour, il n'y avait pas que ça, mais la dégradation de peau de fleurs et autres, n'est-ce pas disproportionné ? Nous avons été suivis, et là, ce n'est pas simplement nous qui étions heureux et soulagés du résultat, ce sont des centaines de personnes qui se sont mobilisées pendant 4 ans, qui ont eu les larmes aux yeux pendant plusieurs jours, de voir leur ami pouvoir être libéré, enfin, après 4 ans d'une procédure extraordinaire.
Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse, outre la beauté de cette affaire et de la libération que vous obtenez, comment vous chopez ce dossier ? Il est originaire de Rennes, monsieur ?
Du Morbihan, oui. Il est italien, mais il habite dans le Morbihan. Et je le salue d'ailleurs, et s'il nous écoute, et je le remercie encore de l'honneur qu'il nous a fait de nous saisir. Mais en fait, on parlait de mon développement tout à l'heure personnel, même s'il n'est jamais personnel, parce que c'est pour toute mon équipe. Mais là, c'est par mon associée Catherine que ce dossier il arrive. Et on décide de le travailler ensemble et de mettre cette complémentarité que nous avons et qu'on essaye de refaire autrement avec nos collaborateurs qui, eux aussi, ont des personnalités, des compétences personnelles, bah de les réadapter comme ça à chaque dossier. Il y en a certains que je suis de A à Z, du début à la fin. Il y en a certains que je trouve tellement plus intéressant de partager avec d'autres qui peuvent avoir d'autres idées, d'autres manières d'aborder les choses à l'oral ou même dans la manière de construire les conclusions, parce que s'il y a quelque chose qu'on revendique, c'est d'utiliser l'écrit comme une arme. On conclut très régulièrement devant le tribunal correctionnel. Il y a de rares instructions qui se terminent sans qu'on ait produit une note d'observation à la fin, etc., etc. Ça nous paraît très important. De la même manière que s'il se passe quelque chose en garde à vue, il ne sert à rien de faire du bruit avec la bouche. On prend une note d'observation, on fait joindre au dossier, on fait constater. Donc là, c'est vraiment c'est mon associé qui a apporté le dossier et c'était un plaisir de le travailler ensemble pendant 4 ans. Alors, on n'était pas tout seul, hein. Il y a eu d'autres avocats, je pense à Paul Matonnet aussi, qui est avocat à la Cour de cassation, qui a apporté beaucoup là-dessus. Je me dois de le souligner, c'est un plaisir de travailler avec lui. Autre dossier sur lequel il y a de la déception, immanquablement, je me vient à l'esprit cet homme que j'ai assisté devant la Cour d'assises de Mayenne en 2016, c'était ma première année, je me retrouve à la fin de l'année, pour la 4e ou 5e fois, devant une cour d'assises, et pour la deuxième fois, absolument seul. C'est-à-dire que c'est un dossier qui m'a été confié de traiter. Et que nous récupérons 2 mois avant l'audience. C'est-à-dire 2 mois avant l'audience, notre client décide de reprendre en main complètement sa défense. Défense qu'il avait, lui, de toute façon, négligée depuis 4 ans, qu'il était placé sous contrôle judiciaire, mis en examen pour un viol. Et puis le temps a passé, et la cour d'assises a fini par le rattraper et par le convoquer. Et j'arrive, ayant analysé ce dossier, à espérer très fortement, à attendre en fait. Et j'essaye de moins attendre aujourd'hui, mais d'aller chercher. Mais à attendre qu'on se rende compte qu'il devrait être acquitté. Et donc, quand je dis attendre, c'est pas que je ne fais rien. Je pose les questions, je travaille. Évidemment, je ne les poserai pas comme ça aujourd'hui. Évidemment, je pense que j'espère que je le plaiderai mieux aussi, que je donnerais d'autres conseils, même si je pense avoir fait mon travail du mieux que je pouvais. Mais bon, j'avais pas, ça faisait pas un an que j'étais avocat. Mais en contrepartie, j'ai donné toute l'énergie, toute la passion que j'y pouvais. Et ce procès qui durait 2 jours, le soir même, je me souviens être terrorisé et me dire « j'arriverai pas à le sauver ». Je voyais le piège se retourner sur lui. En face, il y avait un avocat de partie civile qui était très brillant, très pertinent, dès qu'il prenait la parole, et dont je voyais bien qu'il était dangereux pour ma défense. Au début, en fait, sur tout l'interrogatoire de personnalité, je me dis, mais entre ce qu'on perçoit, la réalité, tout ça, c'est une vaste question, un vaste mystère, qu'on essaye de deviner quand même. Je me dis, tiens, je marque des points, il y a 2-3 messages qui passent. Et puis, lorsqu'on est arrivé sur l'interrogatoire sur les faits, c'est absolument catastrophique parce que il a très peu lu son dossier, en a peu parlé à sa famille. Et lorsque les membres de sa famille viennent progressivement à la barre, en face, du côté de la partie civile et du ministère public, on lit un certain nombre de déclarations auxquelles mon client s'est livré en garde à vue, sur lesquelles il revenait complètement à l'instruction, puis à la barre, sur son comportement, et on dit « Alors, il vous avait parlé de ça ?» Et les gens étaient décontenancés, ils passent pour qui ? C'était des gens de bonne foi, une famille honorable, des gens qui n'avaient rien demandé, eux non plus. Pas davantage que la partie civile, d'ailleurs. Mais ces gens-là sont passés pour des menteurs. Et j'ai trouvé que c'était disproportionné pour eux. L'avocat général requiert 7 ans, et je lui demande avant ce qu'il va requérir. Il me dit 7 ans, et il me dit c'est le tarif ici, c'est le tarif à Laval. J'ai dit bon. Et donc, moi, je plaide pour que mon client ne se prenne pas un tarif et que pour que justice soit rendue, on s'intéresse à la preuve, bien sûr, à la preuve de ce qu'il avait fait ou pas, et que la peine soit proportionnée. Alors, il est acquitté pour une partie, pardon, tu dis.
Je ne comprends pas pourquoi 7 ans. Enfin, le viol, si je ne me trompe pas, c'est 30 ans, 20 ans ?
20 ans, dans sa situation, parce qu'il était aggravé. Cela dit, tu sais, ce serait intéressant de parler avec d'autres pénalistes, de voir les statistiques. Il y avait un papier dans Le Monde, il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait qu'entre le moment où j'ai commencé aujourd'hui, ce qui n'est quand même pas vieux, 7 ans aujourd'hui ne serait pas parmi les résultats les plus graves. Si je trouve qu'on s'est rapproché.
C'est une peine légère, entre guillemets. Aujourd'hui.
Légère, je ne peux pas dire ça. Quelqu'un qui part 7 ans en prison, ça ne peut pas être une peine légère. Mais il y a des gens aujourd'hui qui pour ça, pourraient frôler 10, 12 ans selon les cours d'assises.
Bon. Mais ce n'est pas la pire infraction, le viol. C'est celle en réalité sur laquelle on a le moins de certitude, que ce soit pour la victime ou pour l'accusé.
J'aime pas beaucoup, moi qui n'ai pas la langue dans la poche, me livrer à dire c'est pire ou c'est pas pire, parce que ce serait...
Non, ce que je veux dire, pardon, finalement, c'est que pour le commun des mortels, pour la société, c'est l'infraction sur laquelle on peut avoir le moins d'éléments matériels et le moins de certitude sur la véracité des propos de l'un ou de l'autre. Je suis prêt à répondre, je pense pas.
Je sais pas.
Ok, ça dépend.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Des affaires. Okay. En tout cas, que ce soit dans les affaires sexuelles ou dans les autres affaires, j'estime que mon travail comme pénaliste, c'est de ne pas renoncer aux règles de la preuve, mais que je sois pour la défense ou pour la partie civile. C'est-à-dire que quelqu'un me disait l'autre jour à la chambre de l'instruction, la partie civile, parce que c'est, moi je n'étais pas appelant, c'était sur la mise en liberté, la partie civile va évoquer son émotion ou autre. Ce à quoi je répondais, je vous remercie de bien vouloir nous faire crédit qu'il n'y ait pas que de l'émotion chez nous, mais aussi de la démonstration. On va parler preuve, on va parler ce qu'il y a. Ça se prouve aussi par les déclarations, ça se prouve aussi par les expertises, par un certain nombre de choses, et ça se combat de la même manière. En tout cas, cet homme-là, c'est, d'une certaine manière, s'est pris un tarif. Il avait pris, je reprends l'expression qui est celle de l'avocat général, hein. Il avait pris 6 ans. Et nous avons fait appel, et l'année d'après, il a été condamné à la peine de 5 ans, dont une partie avec sursis mise à l'épreuve, ce qui est un résultat beaucoup plus juste dans sa situation, et qui a été possible aussi pour des tas de facteurs, mais si on parle que de la plaidoirie, qui n'est qu'un outil essentiel, mais qui est un outil de travail pour parvenir au résultat, tu vois, entre les 2 années, il y a une année qui s'est passée, j'ai travaillé différemment. Et là, je voyais bien que sur la peine, on avait un danger très, très important et qu'il fallait que je travaille dessus. Et tout simplement, j'avais choisi de dire, posons-nous la question du sursis. Et pour vous poser la question du sursis, la loi a dit que vous ne devez pas prononcer une peine supérieure à 5 ans. Si vous prononcez au-dessus de 5 ans, vous vous privez de ce pouvoir-là. Donc, mettez, je ne sais plus comment je l'avais dit, mais accordez-vous le fait de prononcer pas plus de 5 ans. Et ensuite, vous nous l'accorderez ou vous ne nous l'accorderez pas, mais au moins, vous vous poserez la question. Il se trouve qu'à la fin, il n'a pas été acquitté, mais que la peine n'avait rien à voir et que le procès s'est passé différemment, pour des tas de raisons. Je pense d'ailleurs qu'il a plus pris conscience de ce qui s'était passé et que, nécessairement, j'étais le même, mais pas tout à fait le même non plus.
Mais ce qui est important, c'est que même si tu peux dire entre les lignes que c'était ta première année, c'était seulement ta deuxième plaidoirie devant la cour d'assises où tu étais... seul, entre guillemets, il t'a quand même fait confiance. Donc, il a estimé avoir été, en première instance, bien défendu.
Oui, oui. Et qui se rassure, ce n'était pas la première. C'était la deuxième. Ce n'était pas la première, même pas la deuxième, d'ailleurs. Mais ce sont des gens qui nous ont fait confiance et à qui la question a été posée, d'ailleurs. Et c'est plutôt ça. Est-ce que vous acceptez qu'on y retourne l'année prochaine? La réponse a été oui. Et ils savaient dans quelles conditions on travaillait. Et l'exigence qui était la nôtre par rapport à leur propre implication dans le dossier, c'est un honneur d'avoir défendu ces gens-là et d'avoir participé à cela.
Très clair. Maxime, on arrive à la fin de cette interview. J'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir ?
De continuer à y prendre du plaisir. Du plaisir intense et d'essayer d'obtenir le meilleur pour nos clients. Et cela vraiment en ayant plaisir à travailler au sein de notre équipe. Voilà, que chacun rentre chez soi le soir en se disant on a essayé de faire du bon, même du très bon boulot.
Super. Maxime, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite aussi bien plus. Je te souhaite que ton activité elle continue comme ça. Que tu prennes toujours autant de plaisir dans ton activité. Tu passeras évidemment le bonjour à Catherine et à tous tes autres associés que je connais très bien. et je te souhaite tout le meilleur et un bon retour en région Grand Ouest.
Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.